de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. PISA 2022 montre que les résultats de l'Indonésie en matière d'alphabétisation ont progressé. Ministère des Affaires maritimes et de la pêche collabore avec une entreprise chinoise pour développer l'élevage intégré de crevettes. Sri Mulyani déclare que l'Indonésie est déterminée à inspirer le monde dans la gestion du climat. Ministre du Commerce déclare que l'Indonésie développe une industrie durable de la noix de coco. Entreprises d'État doivent inclure les partenaires nationaux et mondiaux. Ministère de la Jeunesse et des Sports rencontrera Singapour concernant l'organisation de la Coupe du Monde U20 2025. Et OIKN accélère le reboisement des terres dégradées de l'IKN Nusantara. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le ministère indonésien de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie, Kemendikbud Ristek, a déclaré que le classement des résultats d'apprentissage en alphabétisation de l'Indonésie dans le programme international d'évaluation des étudiants au PISA 2022 a augmenté de 5 à 6 positions par rapport à 2018, ce qui est en fait la plus haute réussite. Le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie, Nadiem Anwar Makarim, a déclaré mardi que cette augmentation du classement montre la résilience du système éducatif indonésien à surmonter la perte d'apprentissage due à la pandémie. Selon Nadiem, le ministère de l'Éducation et de la Culture met en œuvre divers programmes pour réduire la perte d'apprentissage.
Yang pertama adalah pemberian akses daring yang sangat signifikan. Kita melakukan bantuan kuota salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan.
L'octroi de l'accès est très important. Nous fournissons l'un des quotas d'aide les plus importants jamais fournis par le pays à 25 millions d'étudiants et à 1,7 million d'enseignants afin qu'ils puissent toujours accéder au matériel et effectuer leur apprentissage en ligne. C'est donc la forme d'initiative qui, d'après notre enquête, est la plus efficace pour contribuer à la continuité du processus d'apprentissage pendant la PGG. Le deuxième point concerne la formation des enseignants. Nous réalisons différents types de plateformes de formation en ligne auxquelles participent près de 800 000 enseignants dans toute l'Indonésie pour faire la transition et savoir comment enseigner pendant les PGJ, quelles permutations de cours doivent être effectuées, etc. Nadim Karim a ajouté que son parti fournit également de nombreux matériels d'apprentissage pour aider les enseignants à réaliser leur apprentissage en ligne. Le classement de l'Indonésie au PISA 2022 pour la culture et lecture et en mathématiques a augmenté de 5 places par rapport à avant, tandis que pour la culture scientifique, il a gagné 6 places. Le PISA est mené tous les 3 ans par l'Organisation de coopération et de développement économique pour mesurer les connaissances en lecture, en mathématiques et en sciences des élèves de 15 ans. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie collabore avec une entreprise de la République populaire de Chine pour développer l'élevage intégré de crevettes. Cette collaboration a été marquée par la signature récente d'un protocole d'accord entre le Centre de services commerciaux de production aquacole de Karawang, qui est une unité de mise en œuvre technique du KKP, et le groupe Huandong Evergreen dans la ville de Changjiang, province du Huandong, Chine du Sud. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie, Sakti Wahyu Tranggono, a déclaré dans sa déclaration officielle que cette collaboration vise à augmenter la production nationale tout en élargissant le programme d'économie bleue qui met l'accent sur la pêche durable. Dans un premier temps, la coopération pour le développement de l'élevage intégré de crevettes sera menée dans la région de Sumba Oriental, province de Nusa Tenggara Oriental, sur 1800 hectares de terre. La construction donnera la priorité aux principes de durabilité environnementale ainsi qu'à l'absorption des travailleurs locaux. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que l'Indonésie était déterminée à inspirer le monde en s'engageant à soutenir la gestion de la crise climatique mondiale par le biais de mécanismes de transition financière verte et d'autres politiques. Par conséquent, l'Indonésie s'est engagée à réduire le dioxyde de carbone CO2 dans sa contribution déterminée au niveau national NDC. Sri Mulyani, lors de la 28e conférence des partis COP des Émirats Arabes Unis, EAU, cité mardi dans un communiqué officiel à Jakarta, a déclaré que diverses réglementations visant à soutenir le programme de changement climatique d'un point de vue financier et budgétaire avaient été formulées, par exemple, par le biais du marquage du budget ou étiquetage budgétaire et de l'émission de sukuk vert. En dehors de cela, l'Indonésie a également introduit 3 programmes de finances durables, à savoir la création du mécanisme de transition énergétique, la taxonomie de l'ASEAN pour la finance durable version 2 et le partenariat indonésien pour une transition énergétique juste. Le mécanisme de transition énergétique a été introduit par l'Indonésie comme une forme de financement mixte pour la transition économique verte qui vise à accroître le rôle des énergies nouvelles et renouvelables et à contrôler le rôle de l'énergie issue des combustibles fossiles. Le ministre du Commerce Zulkifli Hasan a déclaré que l'Indonésie développe une industrie durable de la noix de coco pour améliorer le bien-être des agriculteurs et protéger l'environnement. Zulkifli Hassan lors de l'ouverture de la réunion ministérielle internationale de la communauté de la noix de coco à Bandar Lampung mardi a déclaré que l'Indonésie, en tant que l'un des pays producteurs de noix de coco, tenterait de développer une industrie durable de la noix de coco. Il a expliqué que le développement d'une industrie durable de la noix de coco se ferait de l'aval vers l'amont. Zulkifli Hassan espère qu'à travers cette activité, il y aura un échange d'innovation et un transfert de technologies concernant le développement d'une industrie durable de la noix de coco par les pays producteurs de noix de coco. La réunion au niveau ministériel des pays producteurs de noix de coco a réuni 80 délégués de 15 pays. Le but de cette activité est de formuler diverses innovations politiques et modèles de développement industriel ainsi que des plantations de noix de coco durables et respectueuses de l'environnement. Le secrétaire du ministère de l'Entreprise d'État BOMN, Rabin Indrajat Attari, a déclaré que les entreprises d'État doivent inclure les partenariats nationaux et mondiaux. Rabin, lors de l'événement 2023 BOMN Champion Partner Appreciation à Jakarta mardi, a expliqué que BOMN avait deux tâches principales, à savoir être un créateur de valeur et un agent pour le développement de l'Indonésie. Ces deux fonctions sont très difficiles si elles sont exercées par les entreprises d'État elles-mêmes. Le ministère a donc besoin de partenaires compétents tant au niveau national qu'international, pour rendre les entreprises d'État plus inclusives. Des partenaires plus responsables sont nécessaires. Selon Rabin, sans partenaire de qualité, BOMN ne peut pas être aussi bon qu'aujourd'hui. Cependant, le ministère de l'Entreprise d'État doit également sélectionner des partenaires pour obtenir le meilleur et éviter ceux qui sont irresponsables. Le ministère des Entreprises d'État a également remercié les partenaires à travers l'événement Partner BOMN Champion 2023, où les partenaires ont été sélectionnés et évalué sur la base des performances du partenariat tout au long de 2022. Le ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Dito Aryo Tejo, a révélé qu'il tiendrait une réunion avec Singapour concernant le projet de candidature à l'organisation de la Coupe du monde U20 2025. Auparavant, le président de la Fédération indonésienne des U20, le comité de la 17e Coupe du Monde, qui est également président général du PSSI, ou l'Association de football indonésienne, Erick Thohir, a déclaré qu'après le succès en tant qu'organisateur de la Coupe du Monde U17, l'Indonésie se concentrera désormais sur le fait de devenir ensemble l'organisateur de la Coupe du Monde U20 en 2025 avec Singapour. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, après la conférence de presse de l'Indonésie International Open 2023 de Jakarta mardi, a révélé que la réunion conjointe avec les Singapouriens aurait lieu dimanche prochain. L'Indonésie a organisé avec succès la Coupe du monde U17 2023 qui s'est déroulée dans quatre villes, à savoir Surabaya, Solo, Jakarta et Bandung, du 10 novembre au 2 décembre. Le 4 décembre, la Fédération de Singapour a soumis une lettre officielle à PSSI, ou l'Association de football indonésienne, concernant sa candidature pour co-organiser la Coupe du monde U20 2025 et la Coupe du monde U17 au cours de la période 2025-2029. Le président général du PSSI, Erick Thohir, a déclaré que l'Indonésie disposait de grandes opportunités pour accueillir la Coupe du Monde U20-2025 ou la Coupe du Monde U17-2025-2029, compte tenu du succès démontré lors de la Coupe du Monde U17-2023. La députée à l'environnement et aux ressources naturelles de l'autorité de l'IKN, Mirna Safitri, a déclaré que l'autorité de la capitale Nusantara au IKN accélère le reboisement des zones dégradées pour garantir que 65% de son territoire devienne une forêt tropicale. Mirna, lors d'une discussion à la COP 28 du pavillon de l'Indonésie à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a déclaré mardi que l'OIKN, le 3 décembre 2023, lors de la COP 28, a lancé la contribution déterminée régionalement et localement, RLDC, de Nusantara. Une feuille de route qui décrit les mesures prises par Nusantara à devenir une ville à zéro émission, voire à bilan carbone négatif en 2045. Mirna a également déclaré que son parti lancerait le plan Nature Positive en tant que document qui compléterait le RLDC. Son parti a mis en œuvre une politique de moratoire sur l'huile de palme et les permis miniers. Dans le même temps, l'application de la loi contre les activités minières illégales est assurée en collaboration avec d'autres ministères et institutions par le biais d'un groupe de travail spécial lié à l'exploitation minière illégale. Pour cette raison, les efforts de reboisement continuent d'être accélérés compte tenu de l'engagement d'IKN, selon lequel 65% de la superficie d'IKN est de 252 000 hectares. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Augmenter l'alphabétisation des étudiants indonésiens pour des ressources humaines supérieures, avec moi Audrey. Cherche tard les résultats de l'étude Programme International Student Assessment ou PISA 2022 montre que le classement des résultats d'apprentissage en littératie de l'Indonésie a augmenté de 5 à 6 positions par rapport au PISA 2018. Le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie a publié mardi les résultats de l'étude PISA 2020 de 5 décembre. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves PISA, lancé par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, est une étude visant à évaluer les systèmes éducatifs auxquels participent plus de 70 pays à travers le monde. Tous les 3 ans, des élèves de 15 ans issus d'écoles sélectionnées au hasard passent des tests dans les principales matières que sont la lecture, les mathématiques et les sciences. Ce test est de nature diagnostique et c'est utilisé pour fournir des informations utiles pour améliorer le système éducatif. L'Indonésie participe à l'étude PISA depuis 2000. Les résultats du PISA 2022 montrent que le classement de l'Indonésie en matière de lecture et de mathématiques a augmenté de 5 positions par rapport à avant, tandis que pour la culture scientifique, il a augmenté de 6 positions. Cette augmentation indique une bonne résilience ou endurance face à la pandémie de COVID-19. Citant le site officiel du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, le ministre Nadim Anwar Makarim a déclaré que cette augmentation du classement montre la résilience du système éducatif indonésien à surmonter pertes d'apprentissage ou pertes dues à la pandémie. Nadim Makarim a ajouté que l'un des facteurs à l'origine du classement de l'Indonésie au PISA 2022 était la formation des enseignants dispensés par le ministère de l'Éducation et de la Culture à travers la plateforme Merdeka Mengajar, la compagnie de matières d'apprentissage en ligne et hybride. L'augmentation des niveaux d'alphabétisation en lecture, en mathématiques et en indonésien. Le programme Merdeka Mengajar, lancé par le ministère de l'Éducation et de la Culture en 2022, s'est avéré efficace. Ce programme donne à un éducateur la liberté de créer un apprentissage de qualité en fonction des besoins des élèves et de l'environnement d'apprentissage. Bien entendu, cette bonne nouvelle doit être suivie d'une augmentation des compétences et de la créativité des enseignants dans l'enseignement. Cela peut donc offrir un processus d'apprentissage amusant et permettra aux étudiants d'explorer afin qu'à l'avenir, nous puissions créer des ressources humaines indonésiennes supérieures. Pour y parvenir, un engagement et une collaboration solide sont nécessaires de la part des parties prenantes concernées, telles que les enseignants, les directeurs d'école, les agences éducatives, le gouvernement et bien sûr les parents. Bon chat Joytard, c'est tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 décembre 1917, la Finlande devient indépendante. Avant de déclarer son indépendance, la Finlande était une région autonome de l'Empire russe appelée Grand Principauté de Finlande de 1809 à 1917. La déclaration d'indépendance de la Finlande a été déclenchée par la Révolution russe qui a eu lieu en février 1917. Après l'effondrement de l'Empire russe en octobre 1917, le Parlement finlandais déclara l'indépendance de la Finlande le 6 décembre 1917. Le gouvernement soviétique russe reconnut finalement l'indépendance de la Finlande le 4 janvier 1918, mettant ainsi fin au statut d'autonomie de la région qui durait depuis plus d'un siècle. Passons à l'événement du 6 décembre 1992, les nationalistes hindous détruisent la mosquée de Babri. La mosquée Babri, située à Ayodhya dans la province de l'Uttar Pradesh, a été construite en 1528 par le roi Zahiruddin Muhammad Babri de l'Empire Moghol. Les différends entre hindous et musulmans concernant l'existence de la mosquée Babri durent depuis longtemps. 150 000 nationalistes hindous détruisirent finalement la mosquée le 6 décembre 1992. Les actions des nationalistes hindous ont provoqué des émeutes majeures pendant plusieurs mois et entraîné la mort de 2000 personnes des deux côtés, la majorité des victimes étant des musulmans. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 décembre 2017. Les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 6 décembre 2017, Donald Trump, président des États-Unis à ce moment-là, a annoncé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a également ordonné le projet de déplacer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. La décision de Trump a été rejetée par de nombreux dirigeants mondiaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence le 7 décembre et ses 14 de 15 membres ont condamné la décision du président américain Donald Trump. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem a officiellement ouvert le 14 mai 2018. Chers auditeurs, c'était l'histoire du jour pour ce soir.
Suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta?
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie ayant pour le titre Renforcement du partenariat stratégique Indonésie-Chine. Le ministère de l'Industrie signe un protocole d'accord dans le secteur industriel. La coopération dans le secteur manufacturier Indonésie-Chine renforcera les relations bilatérales et permettra aux deux pays de faire face aux défis majeurs de l'avenir. C'est ce qu'a transmis le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie, Agus Gumiwang Kartasasmita, à Jakarta lundi 4 décembre. Le ministre Agus a déclaré que la croissance de l'industrie non pétrolière et gazière au troisième trimestre 2023 était de 5,20%. Cette réalisation montre la capacité du gouvernement indonésien à maintenir les conditions industrielles afin qu'elles continuent à croître positivement au milieu de la tourmente et des défis économiques. Temps extrême, quand citant Kemenperkin.go.id, on a déclaré que lors du sommet de l'ASEAN du 8 septembre 2023, le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, MIIT, de la République populaire de Chine, RPC, avaient signé un protocole d'accord sur la coopération du secteur industriel. Ce protocole d'accord reflète l'engagement initial des deux pays à faire progresser le secteur industriel dans l'intérêt mutuel. L'Indonésie et la Chine ont convenu de continuer à explorer une coopération spéciale dans le domaine de la coopération industrielle avancée. La portée de la coopération dans le cadre de ce protocole d'accord comprend l'automobile, les batteries au lithium, les semi-conducteurs, la bioperspective, la pharmacie et le développement de technologies industrielles. Pendant ce temps, dans l'autre occasion, lors du sommet ASEAN-Chine qui s'est tenu en novembre dernier au Cambodge, les négociations sur la mise à niveau de la zone de libre-échange ASEAN-Chine, ACFTA 3.0, ont été convenues et lancées. Ce forum a convenu d'assurer l'inclusivité, la modernité, l'exhaustivité et le bénéfice mutuel pour les deux parties en ciblant un niveau de libération tarifaire plus significatif et meilleur. Dans un autre forum, lors du forum Chine-ASEAN sur les industries émergente qui s'est tenue les 4 et 5 juillet 2023 à Shenzhen en Chine. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie a également tenu une réunion bilatérale avec le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information. La réunion a discuté des initiatives proposées par la Chine pour renforcer la coopération dans les industries émergentes, notamment liées à l'industrie 4.0 et aux véhicules à énergie nouvelle, NEV, ainsi que la coopération liée au photovoltaïque PV. Concernant cette offre, l'Indonésie a salué ce que la Chine a dit, notamment pour renforcer la coopération dans le secteur industriel. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie espère qu'à l'avenir, l'Indonésie et la Chine pourront travailler ensemble pour soutenir le lancement de la réunion ministérielle ASEAN-Chine sur l'industrie afin de renforcer la région face aux défis mondiaux plus grands. C'est aujourd'hui tard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Kedua mata indahmu saat bibirku mengecup manis pipi merahmu dengan lugunya engkau bertanya mengapa diriku mencintaimu ya ku tak tahu. kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us. Love and trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you're starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, la plage de Karangjae est une attraction touristique naturelle sous la forme d'une plage de sable blanc située dans le village de Punjulharjo, le district de Rembang, la région de Rembang, la province de Java Central en Indonésie. Cette plage s'étend sur 3 km et est unique en ce qu'elle possède de nombreux petits coraux en forme de plantes de gingembre. Elle s'appelle donc la plage de Karangjae et est rangée de pins. Cette plage a du sable blanc et des vagues calmes. Elle propose donc diverses activités de plage intéressantes telles que jouer dans le sable et jouer sur des bateaux pneumatiques. « L'attrait de la place de Karangjahe, entre autres, c'est que l'on peut profiter d'un beau panorama sur la mer Bleue, car la place est en pente. Surtout quand vous venez l'après-midi, vous pourrez profiter de l'ambiance du soleil couchant, d'un magnifique coucher de soleil. En plus de bronzer sur la plage en pente, qui est généralement une caractéristique des activités de plage, sur la plage de Karangjahe, vous pouvez également jouer au VTT tout en regardant les rangées de pins qui poussent le long de la côte sur une longueur estimée à 1 km. Dans cette zone de plage, il existe de nombreux spots photo intéressants qui peuvent être utilisés comme arrière-plan photo. Une inspiration qui peut être utilisée en option est de prendre une photo sous le pin qui borde la plage. Vous pouvez également profiter de la brise marine et admirer la plage depuis le bord de mer en voyageant en bateau à moteur loué jusqu'à l'île de Karang. La durée du trajet aller-retour est d'environ 20 minutes. Si vous souhaitez profiter plus longtemps de la brise marine, vous pouvez prendre un bateau à moteur jusqu'à l'île de Gosong pour un temps de trajet d'environ 30 minutes. Il existe également des petits bateaux pneumatiques équipés de pagaies pour faire le tour de la plage et des bateaux bananes. L'eau de mer de cette plage est assez claire et propre. Elle soutient donc vraiment les activités des visiteurs qui souhaitent nager au bord de la plage. C'est joli tard, autour de la plage de Karangjahe, il y a de nombreux belvédères soigneusement aménagés et vous pourrez vous détendre et profiter de la plage depuis le belvédère. Si vous avez faim, vous n'aurez pas aucune difficulté à trouver à manger et à boire, car dans cette zone se trouvent des stands de nourriture et des vendeurs ambulants. De même, si vous souhaitez passer la nuit, vous n'avez pas besoin d'apporter une tente ou un sac de couchage, car la région de la résidence de Rembang propose de nombreux hébergements à seulement 20 minutes. En effet, la plage ne propose pas encore d'installation d'hébergement. Tout cela peut être surmonté car l'emplacement de la plage est assez facile à trouver car elle passe par la route nationale menant à la côte nord de Semarang-Surabaya, précisément entre les villes de Lasem et Rembang. C'est Zorita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt!
Coba merelakan dan mulai melupakanmu, tetap.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente les vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Saya Datang Bertiga. Saya Datang Bertiga. Je suis venu en trois. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Saya Datang Bertiga. Saya Datang Bertiga. Je suis venu en trois. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Ayu, une amie de communauté de vlog de Chris de Solo. Ayu a déclaré dans le vlog de Chris que l'année dernière, elle avait visité le palais Surakarta à Hadiningrat. Bonne écoute.
Kapan terakhir kali kamu ke keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées « Saya datang bertiga ».« Saya datang bertiga ». »« Je suis venu en trois ». Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. « Saya datang bertiga dengan kakak laki-laki dan adik perempuan saya ». Saya datang bertiga dengan kakak laki-laki dan adik perempuan saya. En français, je suis venu trois avec mon frère et ma soeur. Datang. Datang. Venir. Bertiga. Bertiga en trois. Dengan. Dengan. Avec. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki, frère. Adik perempuan. Adik perempuan, sœur. Kapan? Kapan? Quand? Terakhir kali. Terakhir kali. La dernière fois. Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta Hadiningrat. Le palais Hadiningrat de Surakarta. Tahun lalu. Tahun lalu, la dernière année. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration « Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya ».« Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya ». « Je suis venu trois avec mon frère et ma soeur ». Dans cet énoncé, il y a le mot « trois ». Le mot « trois » est un mot numérique qui signifie « trois personnes dans un groupe ». Dans cette phrase, le mot « trois »,« trois », »,« bertiga », est utilisé pour écrire un groupe de trois personnes, à savoir Ayu, son frère aîné et sa sœur cadette. Alors, chers auditeurs, écoutons un autre exemple d'utilisation du mot nombre pour signifier un certain nombre de personnes dans un groupe. Berdua yang bermakna berjumlah dua orang dalam satu kelompok. Berdua yang bermakna berjumlah dua orang dalam satu kelompok. En français, un deux signifie deux personnes dans un groupe. Kita akan berangkat berdua ke Australia. Kita akan berangkat berdua ke Australia. Nous irons en deux en Australie. Berlima yang bermakna berjumlah 5 orang dalam satu kelompok. Berlima yang bermakna berjumlah 5 orang dalam satu kelompok. En cinq, qui signifie cinq personnes dans un Europe. Kami tinggal berlima di rumah ini. Kami tinggal berlima di rumah ini. Nous sommes en cinq qui vivent dans cette maison. Chers amis, le palais Surakarta de Ningrat est l'une des icônes de la ville de Surakarta ou Solo dans la province centrale de Java. Ce palais est la résidence du roi Paku Buana II qui dirigeait la région de Surakarta Sunan depuis 1745. Karaton qui signifie résidence du roi. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kapan terakhir kali kamu ke Keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. De l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Gayo, Aceh, intitulée Tawar Sedenge. La chanson Tawar Sedenge a été composée par A.R. Moese. La chanson Tawar Sedenge est souvent chantée lors de grandes fêtes et des cérémonies du drapeau dans la région centrale d'Aceh. La chanson elle-même décrit la richesse des eaux plateaux de Gayo avec ses ressources naturelles telles que le café Gayo et les épices. En outre, la chanson intitulée Tawar Sedenge invite également le peuple Gayo à gérer la richesse naturelle des autres plateaux de Gayo. Bon, chers auditeurs, voici une chanson de Gayo, Aceh, intitulée Tawar Sedenge, chantée par Abu Moese Ashari. Bonne écoute.
Gayo
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.